Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Olivier Pourriol.
Elsa Boublil.
Le secret de l'action, c'est de s'y mettre.
Alain. C'est sur la bande originale du film d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, signé Bernard Herrmann, que nous vous accueillons, Olivier Pourriol, philosophe, romancier, essayiste, cinéphile et mélomane, tant de cordes à votre arc, illustré par cette musique dont les images s'imposent aussi vite que la musique démarre, et qui interroge ainsi la phrase de Pascal Quignard, l'oreille est le seul sens où l'œil ne voit pas. Une question que j'ai envie de vous soumettre, vous qui interrogez la musique à travers des philosophes, dans un coffret de 3 CD paru récemment chez Frémo et Associés, excellent philosophie de la musique et du chant, passionnante, enrichissante trilogie qui résonne bien avec le principe de notre émission. Bonjour donc, Olivier Pourriol.
Bonjour.
C'est vrai que Quignard, que je citais à l'instant pour cet extrait de La mort aux trousses, alors que paradoxalement, on voit complètement le film s'afficher.
C'est vrai que Quignard et Hitchcock, je ne sais pas si ça va très bien ensemble. Mais c'est vrai que moi, c'est l'inverse. La musique, ça me fait toujours voir des choses. Et, bon, là, en particulier, évidemment, parce qu'on a déjà vu le film. Mais de manière générale, la musique, ça fait naître pour moi un état que certains considéreraient comme pathologique et caractéristique des gens qui ne connaissent rien à la musique classique, un état onirique de rêverie, d'abandon, extrêmement propice à la formation d'images, de situations, de séquences. Voilà, c'est la musique, pour moi, ça fait naître des univers. Et pas forcément des souvenirs, hein, ça fait naître des univers qu'on n'a pas encore connus, mais qu'on reconnaît et qui sont des paysages qui viennent du son.
On va pouvoir en parler, puisque vous connaissez le principe de cette émission, c'est de parler de vous à travers vos goûts musicaux et les émotions que suscitent ces musiques. Alors, je voulais signaler également que vous venez de publier un essai chez Michel Lafon, Facile, ou comment s'inventer un chemin détourné face à une difficulté, c'est à peu près ça. Ou...
Exactement, c'est l'idée qu'il faut éviter les efforts inutiles et qu'on est victime dans nos sociétés qui sont fondées sur le travail. On confond la souffrance et le travail. On croit qu'il faut souffrir pour être efficace. Et je montre qu'il y a une tradition française qui indique l'inverse, qui va de Descartes à Deleuze pour la philosophie, qui passe par des musiciens comme Hélène Grimaud, passe par des athlètes, que ce soit Zidane, Jacques Mayol, le funambule Philippe Petit. Donc je fais toute une galerie de personnages. Il y a Alain Passard aussi, le grand chef.
Qu'on a eu ici sur France Musique.
Ah, vous avez de la chance. Ouais. Et Bachelard aussi, qui montre que quand on imagine bien, on vit mieux.
Alors, paradoxalement, je vous entends parler de travail. Vous avez quand même choisi la phrase d'Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre.
Mais oui, c'est-à-dire que c'est facile d'agir. Il suffit de ne pas ruminer. Il suffit de ne pas y penser. Il faut cesser de réfléchir si on veut agir. Et ça fonctionne aussi pour la pensée. Quand on cesse de réfléchir, on pense mieux. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Et je montre comment Stendhal utilisait cette technique, comment Françoise Sagan utilisait cette technique. Donc, en fait, c'est un livre qui recueille toutes les recettes de gens qui sont aussi bien des créateurs, des athlètes, où il y a le psychanalyste François Roustan également qui utilise l'hypnose, pour voir que le chemin de la facilité c'est toujours un but, en général c'est difficile d'y accéder, mais il y a une manière d'y aller qui est plus facile.
Thank you.
extrait du Sacre du Printemps de Stravinsky par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Alors c'est vraiment le certificat de naissance de la musique contemporaine. C'est un manifeste qui a engendré des polémiques, des contestations par le choc électrique et rythmique et harmonique qu'apporte cette musique. Vous, on commence avec ça, on parlait du temps et justement de ce rapport au temps. Là, on est dans un temps qui est contracté.
Alors moi, comment dire, je suis pas musicologue, donc je vais pas vous faire de commentaires, mais pour moi, ça, j'ai l'impression que ce sont des naissances, c'est des mouvements qui sont en train de naître. Et c'est une musique qui, je vous disais, qui me fait quelque chose, et j'ai repensé à cette expression faire quelque chose. C'est la première fois que j'ai lu cette phrase de Leclésio dans un livre qui s'appelle Printemps, et je me souviens pas du début exact, mais à un moment, il dit le printemps, virgule, ça me fait quelque chose. Et cette musique-là, ça me fait exactement ce que ça fait au personnage de Leclésio dans Printemps. Et c'est le sacre du printemps. Et ça fait quelque chose parce que ça fait naître. Ça met dans un état de disponibilité, de possibilité, d'attention. On sent les mouvements qui commencent, qui peuvent s'emballer, puis qui sont repris par une autre ligne à côté. Donc, pour le coup, je sens vraiment un paysage qui est en train de s'animer. Et sans aller dans l'illustration, je dis pas que la musique vous fait voir, c'est pas le printemps avec les bourgeons qui poussent, c'est pas ça du tout. C'est plutôt ce qu'on peut faire avec du temps. Quand on a un être vivant, quand on est inscrit dans le temps, eh ben on est capable de mouvements comme ça, de débuts, d'élan, et entendre ça. Et cette version en particulier, parce que se trouve que c'est le premier disque qu'on m'a offert, c'était un CD, et à l'époque j'avais pas de lecteur CD. C'était les tout débuts. Donc j'avais ce magnifique coffret qui était doré, avec dedans il y avait donc le Sacre du Printemps dirigé par Boulez, il y avait aussi du Bartok, etc. Tous ces mots que je connaissais d'un peu de loin, parce que moi j'étais d'une famille qui écoute pas du classique, c'était plutôt du jazz ou de la variété française. Voilà, j'avais ce cadeau, et donc avec mes premières économies, je me suis acheter un lecteur
pour pouvoir l'écouter.
Ouais, et j'avais trois coffrets comme ça. Et c'est une musique que j'ai écoutée tout de suite en boucle, parce qu'elle m'a fait quelque chose, et surtout elle ne s'est pas usée. Là, je la réécoute avec le même plaisir, et c'est pas quelque chose qui me rappelle des souvenirs. C'est mieux que ça. Ça rappelle le moment où on est dans un état de possibilité. Voilà, ça reste un des possibles.
Et vous aviez quel âge à ce moment des possibles?
Comme tout le monde, 16 ans, 17 ans.
D'accord. Mais et vraiment, vous l'avez mis en boucle?
Oui, parce que quand on achète un lecteur CD, c'est pas comme aujourd'hui où tout était accessible. Et que le CD c'était rare, et puis à l'époque c'était très valorisé, alors que maintenant il y a le retour du vinyle. Mais à l'époque, le vinyle passait pour pas être un son aussi exceptionnel que ça, et puis la publicité autour du CD, on avait l'impression que c'était presque une musique, c'était la pureté, ouais. C'est une forme d'éternité, on allait avoir vraiment le maximum de la beauté. Et donc j'écoutais ça en boucle, d'abord parce que j'avais que ça, et après ça s'est un peu enrichi, mais parce que c'était bien de commencer le rapport au CD par la musique classique. De toute façon, c'est Karajan qui a inventé le CD, donc avec Sony, je crois. Donc c'était fait pour écouter la musique classique, comme si on était au concert.
Olivier Pourriol, vous avez grandi, je crois, dans le Var. Donc vous disiez dans une famille où c'était plutôt le jazz qui était à l'honneur.
Alors beaucoup de musique, et puis le jazz, le jazz quoi, de Nougaro à Stan Getz. Donc c'est variété française, chansons françaises à parole, et puis beaucoup, beaucoup de jazz. Oui.
Vous avez donc fait votre culture musicale classique, dite classique, tout seul?
Oui, par accident, du coin de l'œil, et un peu par effraction. J'ai rencontré des pianistes, j'ai rencontré Sergio Tiempo, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir la musique classique. Donc j'allais écouter des concerts, on m'a un peu tiré par la manche, mais j'y suis allé avec plaisir, et c'est devenu le sujet de mon premier roman.
Ouvrir ses oreilles du coin de l'œil. Voilà Olivier Pourriol, qui est l'invité de Musique et moi ce matin jusqu'à midi et demi. Le vieux château des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski, interprété par le quintet Moragues, donc dans une version pour quintet avant et piano. Alors, on garde ce caractère intime de la version pour piano. On n'est pas dans la grande éloquence de l'orchestre. C'était pour évoquer avec vous, Olivier Pourriol, votre deuxième souvenir musical.
Oui, alors, en fait, c'est ça le premier souvenir musical. C'était à l'école primaire. Je ne me souviens même plus quel âge j'avais. Je pense que j'étais en CP ou CE1 et on nous a fait écouter les tableaux d'une exposition. Ça m'a beaucoup marqué et je me suis arrangé pour trouver le 33 tours après chez mes parents. Et c'est le vrai premier souvenir de musique classique avec Pierre et le Loup, évidemment.
Ouais, d'accord. Ouais. Et alors, on est encore dans l'image. C'est intéressant parce que vous êtes très cinéphile et les choix musicaux qu'on va découvrir tout au long de cette émission sont très... figuratif finalement, on voit des choses définies.
Bon là c'est un hasard parce que au fond c'est quelque chose qu'on m'a fait découvrir et c'était pas accompagné par des tableaux, mais en effet Moussorski c'était censé accompagner des tableaux qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Je sais pas si on sait lesquels ça accompagnait. Oui alors mais ce que j'entends dans cette version c'est quand même très c'est pas mélancolique mais il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, c'est très mesuré et je trouvais que c'était là, ce morceau que je découvre dans cette version, c'est exactement ce que moi j'attends de la musique. C'est-à-dire que je trouve que ça permet de rentrer dans un univers qui est à la fois très apaisé, dans lequel la tristesse est intégrée et qui met la tristesse à distance et qui permet donc une consolation. C'est pas de la mélancolie, mais ça permet d'être dans un moment un peu de suspens. On est un peu en retrait de la vie. On regarde passer peut-être les tableaux de son exposition à soi. Et il y a quelque chose de très apaisant.
Vous êtes analytique, vous avez une belle analyse de la musique, et pourtant vous disiez tout à l'heure qu'il est rare qu'une musique vous fasse quelque chose, Olivier Pourriol.
Oui, je n'analyse que ce qui me touche.
Donc là, ça vous touche.
Là, ça me touche beaucoup, j'ai envie de la réécouter.
Musique et moi, Elsa Boublil. France Musique.
On en revient à votre enfance, adolescence. Je crois que vous étiez un bon élève, Olivier Pourriol. Tellement bon élève que vous avez obtenu une bourse pour être au lycée français de Londres.
Oui,
et là,
en première.
En première. Un souvenir qui vous laisse dans quelle émotion, justement?
Une grande solitude, parce que j'étais dans une famille anglaise et j'avais 16 ans. Et donc, je partais le matin, je prenais le métro, j'allais au lycée français, il y avait 8 heures de cours, je partais, il faisait nuit, je revenais, il faisait nuit. J'entrais dans une petite chambre avec de la moquette rose qui se détachait, c'était assez sinistre. J'occupais mon temps, du coup, à lire. Je lisais beaucoup, j'écrivais des poèmes pour éviter de fréquenter trop la famille anglaise. Et je lisais Sartre, La Nausée, mais je lisais aussi Boris Vian, L'écume des jours. Ouais. Puis j'écrivais toute la journée, j'écrivais 10 pages par jour. Et j'écoutais, c'est mon premier souvenir, d'achat technique. Je me suis acheté un Walkman, à l'époque on le disait comme ça.
Ouais.
Et je me suis acheté ma première cassette d'ado, quoi. Je me suis acheté, c'était U2, c'était un concert live. Il y avait une chanson qui s'appelait October. Et il y a juste un peu de piano, il y a trois paroles qui se battent, un peu comme un espèce de poème aphoristique. Et pour moi, c'était ça, Londres. C'était cette chanson de U2 qui ressemblait à de la musique classique.
interprété par Charlie Parker. On parlait Londres, Olivier Pouriol, à l'instant. Cette solitude, ce titre de YouTube que vous avez découvert, October. Moi, je m'étais imaginé que c'était peut-être l'occasion de rentrer dans une musique comme ça, très solitaire, comme celle qu'on vient d'entendre, qui était celle écoutée, j'imagine, par votre père. Vous parliez de jazz.
Oui, enfin, comment dire, la musique qu'écoutent les parents, on n'a pas trop envie de l'écouter ou de rentrer dedans. Moi, quand j'étais enfant, le jazz, c'était... on allait à Cimiez, parce qu'on n'habitait pas très loin. On allait voir le festival de jazz de Cimiez. Et quand on est enfant, le jazz, c'est cette musique étrange où les adultes ont l'air de comprendre quelque chose qui nous est interdit. Et ils acquiescent comme ça, ils en vont de la tête, ou alors ils marquent le rythme. C'est un truc très étrange, un truc de connaisseur. Et quand on est enfant, pour moi, Cimiez, c'était j'attendais la gaufre à la chantilly qui venait à la fin comme une récompense de la patience. Mais dans la nausée de Sartre que j'avais découvert à Londres, il y a ce passage vraiment qui m'avait beaucoup marqué. Bon, il y a celui que tout le monde connaît où le type est agressé par une racine de marronnier qui lui fait prendre conscience, etc. Bon, mais il y a une séquence dans un club de jazz et ça fait penser avec une chanteuse. Et il y a quelque chose de l'ordre, il y a une émotion soudain, alors que c'est un univers très visqueux quand même, l'univers de la nausée chez Sartre. Il y a quelque chose qui s'échappe, et la musique, ça permet d'échapper à la viscosité du monde. Ça permet de s'élever. Là, on entend ce saxophone qui s'échappe, qu'on suit, qui nous emmène. Et donc même chez Sartre, il y avait quand même la perspective de la musique comme un envol.
Alors maintenant que vous êtes devenu grand. Est-ce que ça vous...
Maintenant, ça me touche
ça
directement.
Oui, ouais, c'est ça.
Ça me touche directement. Et j'en écoute. J'essaye de... Surtout, en fait, j'essaye d'en écouter en live, comme on dit, en concert, parce que c'est une musique dont l'essence est quand même d'être improvisée. Et il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui improvisent, qui se risquent. Et on y trouve une image de sa vie, de ce qu'on essaye de faire quand on parle. Et puis on peut
la prise de risque.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut admirer. C'est comme quand on voit un funambule marcher sur un fil, on a peur, on est avec lui. Donc il y a vraiment une intensité qui est propre au jazz.
Et l'aura, bien sûr, apparaît aussi, puisque vous aimez tellement le cinéma, dans le film de Clint Eastwood, Bird.
Oui, alors c'est un des plus beaux films de Clint Eastwood, mais on trouve aussi ça chez Tavernier, finalement, ouais. La figure du jazzman qui fait la musique 24 heures sur 24. Et qui est prêt à en mourir. C'est comme si c'était c'est son souffle vital qui s'exhale. Il n'y a pas de différence entre le spectacle et la vie.
Le cinéma, c'est une passion. Vous avez même animé des ateliers cinéphilo, c'est ça, la Philharmonie de Paris?
Oui, non, mais beaucoup. Je fais ça depuis 15 ans. J'ai commencé à MK de Bibliothèque. On a fait ça pendant 10 ans, 3 ans à la Philharmonie. Je continue. Hein. C'est une forme d'expression où j'utilise des extraits de films pour traverser un thème. Et je continue.
On vous invitera pour parler de la musique des films, peut-être.
Avec plaisir. Thank you.
Aldo Ciccolini qui interprète cette gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie. Là, on rejoint Olivier Pourriol un autre terrain que le vôtre, le terrain de la littérature, puisque Satie nous écrit presque comment jouer. Enfin, il nous donne des indications sur quoi jouer, comment on doit l'interpréter sur le bout de la langue, par exemple. Il peut écrire
cela. Oui. C'est vous la pianiste. Hein.
C'est lié à quel moment de votre vie, Olivier Pourriol?
Ça, c'est associé au moment des études. Enfin, c'est la classe préparatoire. J'écoutais ça et ça correspondait bien. Parce que la classe préparatoire, c'est une espèce de purgatoire qui peut se finir en enfer ou en paradis. Mais même quand c'est le paradis, il y a un petit goût d'enfer. Ce sont des réussites très toujours mitigées, parce que la classe préparatoire, c'est l'endroit où on met les bons élèves. Et puis, bon, on voit ce qui survit, quoi. Et c'est un moment assez désagréable, assez contre nature. Je trouve que c'est contre nature quand on a 17 ans.
Pourquoi ? Parce qu'on travaille.
Non, parce qu'on travaille. C'est pas le travail, moi, ça m'a jamais dérangé. J'aime travailler, mais il y a une violence dans la classe préparatoire, qui est qu'il y a l'idée qu'on est trié, il y a un concours, et je trouve que c'est un grand gaspillage. Alors c'est en train de changer un petit peu, mais c'est spécifiquement français ça, de prendre les meilleurs pour leur taper dessus et pour voir ce qu'il en reste. Et souvent il en reste pas grand chose, parce que même quand on réussit ses concours, on est tellement abîmé par la préparation que ça stérilise beaucoup. Et j'écoutais pas que ça, mais ça me rappelle ça. Vous me demandiez de choisir des morceaux qui me rappellent des moments de ma vie. Satie, j'ai encore une tante qui était pianiste, que j'allais voir, qui jouait du piano, que j'allais voir le week-end pour me reposer de la classe préparatoire. Elle habitait à Rueil-Malmaison. Et elle écoutait ça, elle jouait ça, et c'était un moment de paix, comme ça, c'était un moment un peu arraché au côté scolaire. Alors le paradoxe, c'est que quand on écoute Satie, il était très moqué pour ça. Il y a un côté, on a l'impression qu'il annonce une note après l'autre, qu'on dirait un béaba. Mmh. Il y a quelque chose de faussement scolaire, qui est pourtant l'inverse du scolaire. Une mélancolie, une liberté, et je sais pas, puis c'était consolateur.
Et le rapport, justement, à la rythmique, là, Aldo Ciccolini le rend bien, la main gauche et la main droite ne sont pas exactement ensemble, si ça doit être ensemble, mais cette liberté rythmique, là, me renvoie au rapport au rythme que vous évoquez dans votre CD en trilogie, là, dans lequel vous analysez la musique à travers les philosophes. Vous parlez beaucoup de la rythmique. À travers Hegel, me semble-t-il.
Oui, c'est Hegel, il faut savoir que c'est difficile à lire, à part comment dire, ce qu'il écrit sur l'art, qui tout de même est incarné. Et pour lui, la musique, c'est l'art du temps, mais c'est le temps qu'est la conscience. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique, pourquoi on est pris ? Lui, il vous l'explique. Il dit, c'est que la musique, vous ne pouvez pas la refuser. Je ne sais plus qui disait « l'oreille n'a pas de paupières », mais c'est vrai. La musique entre en nous, mais elle ne fait pas qu'entrer en nous, elle entre dans le temps qu'on est et dans le temps qu'on a. Et elle inscrit dans ce temps informe qu'est la conscience, elle marque un rythme et on accompagne. On est accompagné, on est emmené.
John Eliot Gardiner dirige l'orchestre révolutionnaire et romantique dans cet allegretto de la symphonie numéro 7 en La majeure, opus 92 de Ludwig van Beethoven. J'ai choisi cette musique pour vous, Olivier Pourriol, pour rester sur cette histoire de temporalité, puisque cette symphonie, surtout cet allegretto, nous plonge dans quelque chose de presque cardiaque, j'ai envie de dire, avec ce rythme qui est conservé tout au long de ce mouvement.
Le rythme d'un cœur qui bat. Et vous parlez de Hegel tout à l'heure, c'est vrai que dans le coffret, j'essaye de relier des textes de philosophes qui ont parlé de musique, qui ne sont pas forcément des textes qu'on lit souvent quand on aime la musique. Et Hegel, notamment, je disais qu'il est difficile à lire, dit quelque chose sur le rythme et sur la mesure. Il dit que la beauté de la musique, qui lui est spécifique, c'est d'introduire la mesure dans le temps. C'est-à-dire que le temps se présente à nous de manière informe. Et la musique, en apportant la régularité, fait rentrer l'esprit dans la nature. Voilà. C'est-à-dire que la mesure, c'est l'esprit. C'est la perfection de l'écart prévu et du retour du même. C'est quelque chose qu'on peut prévoir. Mmh. Et d'appliquer ça à la nature, ça lui donne une forme. Et cette analyse de Hegel, elle est reprise par Alain dans son Système des Beaux-Arts. Il dit que c'est ça qui est consolateur dans la musique. C'est que nos passions sont informes. Nos souffrances sont informes. Il dit même, par exemple, les larmes, on croit que c'est la tristesse qui fait pleurer. Il dit non, les larmes, ça marque un soulagement dans la peine. Quand on arrive à pleurer, c'est que ça va déjà un peu mieux. Mais la vraie souffrance, elle n'a pas de forme et elle nous enferme dans l'ici et le maintenant. Mais souvent, c'est parce qu'on est pris aussi dans le passé. C'est de la nostalgie, c'est de la mélancolie, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et donc, il dit, le but de la musique, c'est d'ordonner les souvenirs, d'ordonner ce qui a fait naître du chagrin et de mettre de la mesure dans ce qui n'en a pas.
Et il y a quelque chose de très présent finalement quand je vous écoute, c'est peut-être même, c'est une façon de nous ancrer parfaitement dans le présent.
Ça nous ramène au présent, c'est-à-dire au lieu d'avoir le présent de quelqu'un qui a le doigt coincé dans la porte, souvent on a le présent de quelqu'un qui est en haut d'une montagne et qui voit étaler devant lui à distance sa vie.
Est-ce que la musique qu'on a écoutée en est l'illustration de ce que vous disiez?
Oui, c'est vrai, ce rythme de cœur, ça nous ramène au rythme de notre cœur, et à la fin du morceau, on sent que ça s'apaise. Donc si on écoute pleinement ce morceau, on finit avec un cœur en paix.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Jusqu'à midi et demi avec Olivier Pourriol, on va rester sur ce CD que j'ai écouté, ces trois CD que j'ai écoutés avec passion.
Bravo.
Non, c'était très facile à écouter. Vous citez aussi Vladimir Jankélévitch avec cet ouvrage qu'il a écrit, La musique et l'ineffable. Vous essayez de nous expliquer cet ineffable, justement.
Oui, d'abord, Jankélévitch, il a une position très particulière parce que c'est à la fois un philosophe et un musicien, ce qui est rarissime. D'habitude, il y avait Alain, quand j'ai cité tout à l'heure. Alain aussi était pianiste amateur, mais c'était pas un vrai musicien comme Jankélévitch. Et Jankélévitch, il comprend, enfin, ce qu'il nous fait comprendre, c'est que la pensée et la musique, on pourrait presque dire que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la pensée, c'est le concept, c'est l'analyse, c'est des choses complètes, alors que la musique, ça vous ramène à un moment présent et à quelque chose qui est en train de naître et qui ne s'achève jamais et qui est en permanence inachevé. Donc c'est comme une promesse qui ne peut pas être tenue. Donc le désir d'achèvement de la pensée ne peut pas être satisfait par la musique et ne peut pas saisir la musique. Mais comme lui, il nous raconte ça tellement bien, on arrive à comprendre, on arrive à penser pourquoi la musique dépasse tout ce qu'on peut raconter sur elle.
Thank you.
Van Cliburn interprète le Mephisto Waltz numéro 1 de Franz Liszt, une danse à l'auberge du village, qui a un côté sarcastique, sautillant, Olivier Pourriol. Il paraît que c'est une œuvre d'une difficulté diabolique.
Oui.
Techniquement.
Pour moi, tout est diabolique dans la difficulté, puisque je ne suis pas pianiste. Mais quand j'ai écrit mon premier roman, au moment où je fréquentais beaucoup les concerts de musique classique.
On va en parler dans un instant de ces concerts.
Et j'avais demandé à un ami, est-ce que tu aurais l'idée d'un morceau qui peut tuer quelqu'un ? Alors chez Hitchcock, où il y a un coup de cymbale qui permet de masquer un coup de feu, qui permet d'assassiner quelqu'un, j'ai dit, je veux pas un morceau de musique qui masque une violence, je veux un morceau de musique qui peut tuer quelqu'un. Et on m'a dit, il y a la Mephisto Waltz, hein, et notamment dans cette version, alors c'était une version enregistrée un peu comme ça,
pirate, quoi.
Pas pirate, disons amateur. Et c'était une version de Sergio Tiempo, enregistrée au Japon, je crois, et donc, je me suis servi de ce morceau pour assassiner mon personnage. J'ai construit une histoire qui s'appelle Mephisto Waltz et qui se passe pendant le concours Chopin de Varsovie.
Alors, vous qui n'êtes pas musicien, qui êtes autodidacte en qualité de mélomane, en écoutant cette Mephisto Waltz qui a inspiré votre premier roman, qu'est-ce que vous y avez recueilli qui a pu vous inspirer pour votre roman ?
Disons le sentiment d'une virtuosité dangereuse avec des variations. Et moi j'aime beaucoup la mer, je fais beaucoup de plongée, d'apnée, chasse sous-marine, choses comme ça. Et quand on est face à la mer, dans les moments de tempête, on ressent des choses comme ça, on sait qu'il faut pas y être. Et on y participe. On y est quand même, mais quand on est sur le rivage, on y est à moitié. Et là, la musique, on n'est jamais vraiment sur le rivage, donc on est quand même toujours un peu emporté. Et le genre de variation qu'il y a dans Mephisto Waltz, ça me fait sentir des frissons qu'on peut avoir quand on est en situation dangereuse en mer. Voilà.
Alors Olivier Pourriol, vous évoquiez à l'instant cette partie de votre vie où vous avez fréquenté beaucoup de concours. Comment ça s'est passé ? Comment ça a commencé ? Pourquoi d'ailleurs ?
Pourquoi c'est une histoire personnelle. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans la musique classique et moi, j'aimais pas ça. Et je me suis dit, tiens, plutôt que subir ça, je vais le choisir. Et à l'époque, j'étais en train d'écrire, comme ça, je commençais à écrire. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, parce que comme je n'aime pas ça, je vais pouvoir m'y intéresser.
Et dire pourquoi je ne l'aime pas.
Non. Sans que ce soit simplement le reflet de ce que je pense. Et je trouve qu'il y a beaucoup de premiers romans qui sont simplement de l'autofiction ou qui sont simplement le reflet de ce qu'on connaît déjà. C'est l'occasion pour moi de devoir me documenter, de devoir sortir de moi et d'observer un milieu que je ne connais pas et de ne pas le subir, de le découvrir avec bonheur, comme si c'était une occasion qui m'était présentée. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Et il se trouve que j'ai tellement aimé ça que maintenant, j'y suis par plaisir.
Alors, parmi les concours, il y avait le concours Long Thibaut Crespin, je crois.
Oui, alors Long Thibaut, à l'époque, c'était le concours que j'ai suivi du début à la fin, avec notamment Cédric Thiberguin, qui l'a gagné cette année-là, et qui était le poulain de Marie-Paul Dallier, nouveau virtuose, qui me l'avait présenté. Donc, il se trouve que le candidat que je connaissais, c'est celui qui a gagné. Donc, j'ai suivi vraiment du début à la fin
son aventure. Eh bien, le voici pour vous.
Thank you.
la ballade numéro 1 en sol mineur, opus 23 de Frédéric Chopin, interprétée par Cédric Tiberghien. On est complètement dans la tragédie intérieure de Chopin, Olivier Pourriol. Ce concours Long Thibaud auquel vous avez assisté a donc vu décerner le prix à Cédric Tiberghien. Comment vous avez vécu ce voyage musical ?
Alors, je l'ai vécu comme une discipline d'écrivain. Je me suis dit que j'allais assister à tout. Donc je venais tôt le matin et je partais et j'écoutais tout. Et parfois, on écoutait le même morceau deux fois, trois fois, quatre fois, interprété différemment. Et il y avait quelque chose de très soporifique et de très difficile pour moi. C'est moi qui suis pas connaisseur, j'avais du mal à percevoir. Mais je me suis aperçu que j'avais un voisin qui travaillait chez Radio Classique, je crois, que j'ai revu plusieurs fois. Et quand je l'écoutais parler des interprétations des candidats, ses appréciations correspondaient à mon état de sommeil ou pas. C'est-à-dire que je m'endormais quand il trouvait que c'était mauvais. Et les moments où j'étais attentif, c'est quand il trouvait que le candidat était bon. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, nos opinions se rejoignent. Moi, c'est une opinion physique. Mais ça veut dire que celui qui joue bien du point de vue des connaisseurs vous tient en haleine. Et vous tient au bord de votre siège, et il vous tient vraiment. Et la musique, c'est quelque chose qui vous tient. Et ce morceau-là qu'on a entendu, c'est aussi celui qu'on entend dans Le Pianiste de Polanski. C'est le morceau que joue le pianiste au moment où l'officier allemand, nazi, lui demande s'il est pianiste de le prouver, quoi. Et c'est le morceau qu'il joue alors qu'il est quasiment mort de faim. Et il y a ce moment de grâce extraordinaire. Et dans ce film, pour moi, on voit que la musique, ça sert à tenir. Ça tient les êtres. Ça leur permet de se tenir. Et d'ailleurs, c'est le premier moment, le premier geste d'humanité d'un Allemand, un soldat dans ce film. C'est avec cette musique, soudain, l'officier s'assied. Il renonce à son pouvoir. Et ça s'inverse. Il va se mettre à le cacher. Il va se mettre à l'aider. Et à la fin, quand il reprend son poste à la radio polonaise, on comprend que, au lieu de céder aux émotions, même l'émotion des retrouvailles, la tristesse mélangée à la joie, mélangée à la mélancolie, on se retient. Pourquoi ? Parce qu'on doit jouer. On est tenu par la musique, on est tenu par le morceau. Et c'est la musique qui vous fait garder forme humaine.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Olivier Pourriol, le philosophe que vous êtes, peut-il expliquer, par rapport à ce que vous disiez sur l'assoupissement ou pas, s'il y a un lien entre le discours non-verbal de la musique avec le discours qui peut aussi nous tenir éveillés ou nous assoupir ?
Bien, disons, dès qu'un discours a quelque chose de mécanique, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on lit un texte au lieu d'improviser, s'il n'y a pas cette qualité d'improvisation, qui consiste à recréer une partition comme si on la découvrait, comme si c'était une première fois. À ce moment-là, on s'assoupit parce qu'on n'écoute pas vraiment. Donc on peut être bercé. La musique a une qualité aussi soporifique quand elle est jouée de manière mécanique. Mais quand elle est habitée, c'est quelque chose qui vous réveille.
un extrait de la symphonie numéro 5 en ré mineur opus 47 de Chostakovitch, qui nous renvoie à un épisode de votre vie, Olivier Pourriol, avec Rostropovitch, que vous avez croisé.
Bah oui, bah alors Mephistovals, donc c'est le livre dont on parlait, il y avait un projet d'adaptation. Et il était question qu'on l'adapte avec Charlotte Rampling dans le rôle principal, qui était un rôle de chef d'orchestre international, très, très dur, très cruel. Ça lui plaisait beaucoup, l'idée. Et on s'était faufilé, on sourit, on avait été accueillis par l'Orchestre de Paris. On avait le droit d'assister à toutes les répétitions et pas mal de concerts. Et on a vu les derniers concerts en France de Rostropovitch, qui dirigeait les symphonies de Chostakovitch. Et c'était un moment extraordinaire, la répétition. Je crois qu'il dirigeait la symphonie numéro 10. Et à un moment, il s'est arrêté. Il a donné une seule indication sur une heure de répétition. Et il a dit « comme des fantômes ». Et là, il y a un frisson qui a traversé l'échine de tous les musiciens qui étaient dans l'orchestre. Ils ont vraiment joué comme des fantômes.
Et ça reste, évidemment.
Ah ouais, en vous en parlant, je retrouve le frisson.
On va devoir se quitter, Olivier Pourriol, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Je crois que la musique est toujours présente, et notamment pour écrire. Ça, vous écrivez tout le temps.
J'écris beaucoup, ouais, et j'écris très très souvent avec de la musique dans les oreilles.
Mais ça paraît presque impossible pour certaines personnes, en tout cas.
Alors, bah, moi, ça dépend des moments. C'est vrai que quand j'ai eu des enfants, j'ai eu besoin de silence. Donc, quand j'écrivais, j'avais plutôt tendance à supprimer tous les bruits. Et puis, c'est revenu maintenant. Donc, la musique, ça me permet de me mettre dans un état. C'est comme une longueur d'onde. Si vous trouvez la bonne fréquence, c'est la fréquence où vous ne vous posez pas de questions inutiles. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. On cesse de réfléchir. Et on agit, parce que l'écriture, si on se pose des questions, on n'écrit pas. Donc l'écriture, c'est un fil sur lequel il faut se lancer, c'est un truc un peu de funambule. Donc si vous n'avez pas quelque chose qui occupe la partie de votre esprit, qui est capable de douter, vous avez vite fait de tomber. Mmh. Et donc on peut écrire, moi j'écris souvent, beaucoup, avec de la musique dans les oreilles pendant des heures.
Et notamment Drão, interprété par Gilberto Gil, aux côtés de Caetano Veloso.
Oui, j'adore. Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela noite escura. Drão, não pense na separação. Despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela vida fora. Oh, oh, oh. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre e nasce trigo, vive e morre pão.
Raon, pour éviter que le doute surgisse trop, Olivier Pourriol, est-ce que vous l'avez écouté en écrivant Facile, qui vient de paraître chez Michel Lafon?
Alors c'est très simple, j'ai écrit Facile en écoutant en boucle cet album de Gilberto Gil et Caetano Veloso et un album de David Bowie qui s'appelle Black Star.
Merci beaucoup d'être venu passer cette heure et demie en notre compagnie. Et puis, longue vie à philosophie de la musique et du chant chez Frémont et Associés.
Merci.
C'était passionnant. Et puis, on vous retrouve pour plein de nouveaux projets. En tout cas, un grand merci d'être venu ici.
Merci beaucoup.
Merci aussi à Claire Levasseur qui était à la technique ce matin, Sophie Pichon à la réalisation, Marie-Ferdinand, attachée de production, assistée de Pierre Tessier. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Très belle semaine à l'écoute de France Musique.
France Musique.